Est-ce que vous vous promenez souvent en Creuse ou plus largement en Limousin? Oui, je pense. Mais Carmen Muñoz Pastor et Vincent Primo, eux, le font autrement. Et oui, avec l'association Cardualis, ils créent une revue naturaliste du Limousin qui s'appelle La Cardère. Pour l'automne 2017, leur numéro 5, c'est la corneille noire qui est mise à l'honneur. Son plumage d'ébène glacé de reflets métalliques ne retient guère nos regards parce qu'il est une apparition très fréquente autour de nous. Pourtant, on reconnaît à la corneille noire, comme aux autres corvidés, des facultés remarquables de discernement, une psychologie assez développée qui la rend vraiment digne d'intérêt. Et l'on ne saurait mépriser un oiseau qui, en butte à une antipathie presque générale, sait si bien s'adapter aux circonstances et prospérer tenacement à côté de l'homme. Ça, c'est le petit texte qu'il y a en première page de la revue. Maintenant, je les laisse parler.
Donc bonjour, nous sommes Carmen et Vincent, nous représentons l'association Carduélis, association que nous avons créée donc en 2010, dont le but est de sensibiliser en fait le grand public à la beauté de la nature et à sa nécessaire protection et à sa connaissance, voilà, et ce à travers des films animaliers que nous réalisons et une petite revue nature, voilà, que nous éditons depuis 2 ans.
Et qu'est-ce que le Carduélis?
Alors, Carduélis, c'est le nom latin du chardonneret élégant. C'est un petit passereau qu'on voit fréquemment en Creuse, en Limousin. Et donc, c'était un hommage à la nature assez commune qu'on croise en Limousin.
D'où vous est venue l'idée et quel est le but et les objectifs de votre association?
Alors, l'idée est née lors d'un voyage en Afrique où on s'est rencontrés, où on a pu visiter en fait des réserves naturelles. Et on a eu l'idée là-bas de monter un projet de film pour les personnes qu'on a rencontrées sur place et qui faisaient un énorme travail justement de protection, notamment des éléphants, des derniers éléphants d'Afrique de l'Ouest. Et qui, eux, avaient très très peu de moyens justement pour montrer un petit peu à tout le monde ce qu'ils faisaient. Et on leur a proposé en fait de revenir et de réaliser un film animalier pour eux, pour qu'ils puissent le proposer aux personnes de passage et montrer ce qu'ils faisaient.
Et donc votre association, il y a combien de membres?
Alors, c'est une association, en fait, c'est pour avoir un statut, c'est le producteur des films, mais nous, on n'a pas de membres actifs à part nous, finalement.
Donc, ensuite, le nom de votre revue, Lagardère. Donc, c'est un jeu de mots avec le groupe de presse Lagardère ou c'est plutôt par rapport à la
Non,
plante?
mais on nous le dit souvent, ouais. Non, c'est la continuité, comme l'association s'appelle Carduélis. C'est aussi le chardon, donc la cardère commune qu'on croise un peu partout. Donc logiquement, Association Carduélis, on s'est dit si on fait une revue, ben on va l'appeler La Cardère. Mais le jeu de mots nous plaît bien aussi.
Et donc à chaque numéro, il y a un animal qui est mis à l'honneur. Dans le premier, donc c'était le grand rapace qu'on connaît ici, la buse, donc la buse variable. Après, il y a eu le fameux lézard des murailles, le renard roux, la chevêche d'Athéna, qui est aussi donc qui est une chouette. Et enfin aujourd'hui, la corneille, la Creuse. Et notamment le plateau de Mille Vaches, c'est une terre d'eau. Est-ce que vous avez prévu de faire des revues sur la faune aquatique?
Ah oui, nous, dans l'idéal, on a prévu surtout. Là, le prochain numéro, ce sera un insecte, ce sera le grillon. Et alors, tout potentiellement peut faire partie de la revue. Même un insecte, une plante. Enfin, après, au niveau animal aquatique. Certainement, rien n'est prévu vraiment à l'avance. En fait, ce qu'on vise, c'est vraiment des espèces très communes, comme là, la corneille noire, la buse, le renard. On vise surtout à expliquer les espèces que les gens vont voir tous les jours.
Et ensuite, vraiment, nous, la revue, on est parti sur des monographies. On souhaitait présenter vraiment des espèces, voilà, à travers des dessins, des textes, de la littérature, des photos. Et vraiment, on a pour idée d'élargir, de faire également des numéros, par exemple, sur les oiseaux de la mangeoire en hiver ou sur les plantes communes qu'on peut voir sur nos chemins. Et on est vraiment ouvert en fait à toute possibilité, et notamment sur les espèces aquatiques. Enfin, tout ce qui est triton et voilà, on a bien en fait tous nos choix sont portés par nos envies aussi, nos rencontres et donc voilà, tout est ouvert. Et même souvent, on demande à nos lecteurs si eux ils ont envie justement de découvrir plus à même une espèce de voilà, de nous proposer. Et il y a plein de gens nous soumettent des idées, et puis ensuite, nous voilà, on les choisit, on les ou pas selon nos voilà.
Et donc, vous avez commencé à nous donner quelques éléments de réponse, mais donc, comment et quelle est l'architecture du coup de vos revues?
Bah, l'architecture, en fait, on va prendre donc une espèce commune et on va commencer à expliquer tout simplement comment elle se nourrit, comment elle vit, comment elle se reproduit. Et après, on va aller un peu plus profondément, selon les espèces, dans des petits détails, par exemple la répartition en France ou des choses comme ça. Et à chaque revue, il y a une interview d'une personne qui travaille sur cette espèce, qui nous explique en profondeur la problématique de l'espèce. Et en général aussi, il y a des rubriques sur l'espèce dans la littérature. Donc c'est assez varié, hein, c'est assez fourni dans la revue.
Oui, ensuite on présente aussi également souvent les familles. Par exemple, pour le dernier numéro, la corneille noire, on aime bien présenter la grande famille des corvidés. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur les pies, sur les corbeaux, les freux, les grands corbeaux. Et souvent, on fait également une rubrique justement sur cette famille-là, les espèces qu'on peut voir en Limousin. On aime bien pouvoir dire aux gens, vous pouvez voir cette espèce-là.
Oui, parce que, donc, vous nous l'avez dit, vous avez fait le choix de faire apparaître des animaux d'abord plus communs.
Communs, oui.
Et du coup, ouais, on les voit souvent, ces espèces. Enfin, moi, j'ai rarement vu, par contre, la chevêche, mais bon.
Mm-hmm.
Et, mais on s'aperçoit qu'on les méconnaît, en fait.
Exactement. Et la création de la revue, elle est vraiment partie de ce constat, en fait. C'est qu'on se rendait compte en discutant autour de nous. Nous, on est très sensibles à la nature. Enfin, notre temps libre, on le consacre à se balader, à faire des photos, à faire des films animaliers. Enfin, voilà, on passe beaucoup de temps, justement, à observer la nature. Et on se rendait compte, en fait, en discutant avec les gens, que très souvent, même notamment donc, la buse, qui a été le sujet du premier numéro, que les gens méconnaissaient réellement des espèces qui étaient très très visibles et vraiment connues de tous, qui auraient dû être connues de tous. Et en fait, on se rendait compte que déjà la reconnaissance d'une espèce, c'est pas une évidence. Et pour la buse notamment, c'est la buse variable, c'est pas pour rien, c'est parce que son plumage peut être extrêmement différent. Elle peut passer du marron complet à être très très blanche. Et en fait, on se rendait compte que les gens ne savaient pas forcément, ils voyaient un oiseau là, un rapace posé, mais ils savaient pas que c'était une buse, et alors encore moins son comportement, savoir de quoi elle se nourrissait. Enfin, on s'en rendait compte au fil des discussions. Ouais.
Et la buse, c'est encore moins un hasard, parce que en fait, c'est une espèce dont on voit beaucoup, et les gens se demandent, parce que beaucoup de gens pensent que la buse peut être nuisible, par exemple, peut manger des poules, ou s'il y a trop de buses, ça peut poser problème. Donc nous, on essaye d'expliquer dans la revue que c'est pas le cas, et pourquoi. Le renard, c'est pareil, on a toute une explication de son statut de nuisible, qui pourrait être mis en cause sans problème.
Et donc dans vos revues, donc voilà, il y a des textes, il y a des photos, et donc à côté, vous faites aussi des films animaliers. Mais quelle a été votre formation? Comment vous en êtes venu à faire une revue et des films?
On est complètement autodidacte, en fait. Hein. On a commencé à faire des films donc par hasard en Afrique. Et moi, je faisais beaucoup de photos. Carmen, elle travaille, elle est assistante caméra, elle est intermittente, donc on connaissait quand même un petit peu, mais après, tout ce qui est le montage, la musique, on l'a fait avec des amis, on n'a pas de formation là-dedans.
Et donc oui, on voit que vous prenez aussi des textes donc, de la culture populaire, et il y a certains animaux d'ailleurs qui sont forts en culture populaire, le renard, la corneille. Et la corneille, surtout en ce moment, avec entre Game of Thrones, la corneille à trois yeux, la série Viking, comme quoi c'est le messager d'Odin, enfin, on écoute, on entend, il entend ses espions. On a du mal plutôt à se fier à cette corneille, non ?
Nous personnellement, enfin moi je connais pas Game of Thrones, je sais que c'est très connu, c'est des voilà les séries, voilà on en entend parler beaucoup autour de nous, mais nous on n'est pas très séries. Pour ce qui est de la culture populaire, les corvidés, notamment dans les cultures nordiques, ont souvent représenté justement des messagers des dieux. C'était des animaux qui étaient sacrés et qui étaient très protégés. Et donc je pense que voilà ça rejoint ça rejoint peut-être voilà certaines séries ou non. Tu disais plutôt que c'était oui, que c'était le regard.
C'est que ces animaux, ils sont pleins de mythologie depuis. C'est pas nouveau quoi. Et encore aujourd'hui, on les utilise pour parce que ça parle au public, sans pour autant que justement on connaisse la corneille quoi.
Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est ce double regard dans les cultures nordiques, les corbeaux, les corneilles, tout ça avait vraiment ce statut d'animaux sacrés. Mais à la fois, enfin nous dans nos cultures européennes, tout ça, ce sont des animaux qui justement ont toujours eu une image très négative de par voilà leur cri, de par leur couleur noire. La couleur noire qui rappelle voilà des oiseaux de mauvais augure. C'est des animaux qui peuvent être un peu charognards aussi, donc c'est pas forcément pour nous êtres humains, on a un petit peu du mal avec les espèces qui se nourrissent d'animaux morts. Donc voilà, il y a toute une image derrière qu'on a véhiculée à travers les siècles et qu'on retrouve aujourd'hui. Après, la science s'est aussi emparée ces dernières années du sujet. On a étudié plus en profondeur notamment ces espèces-là et on se rend compte que finalement, il y a une intelligence qu'on n'avait pas vue. Donc la notion d'intelligence aussi, c'est une notion large et dont on pourrait discuter. Mais en tout cas, qu'il y a des révélations sur leur comportement qui sont étonnantes et qu'on n'avait jamais vues ou voulu voir en tout cas jusque-là.
Vous nous parliez du coup des charognards, comme quoi on avait un peu de mal chez les Occidentaux avec les charognards. Vous avez fait d'ailleurs un film, La Curée des Fauves, sur les vautours fauves. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce film ?
Oui, c'est un bel exemple, parce que ce film, on l'a fait, on va dire, d'un point de vue totalement naturaliste, c'est-à-dire qu'on a trouvé une vache morte, et les vautours l'avaient repéré. Et donc, à ce moment-là, on a monté un affût, on a filmé ce qui se passait sur la carcasse. Et après ce film, donc, on l'a monté comme ça. Et on nous a pas mal reproché. Enfin, il y a eu quand même pas mal de gens qui nous ont reproché de presque, c'est assez rigolo, de dévaloriser le vautour. Parce qu'en fait, on voit les images crues. Hein, un vautour qui mange une carcasse, c'est pas forcément esthétique. Mais c'est comme ça que ça se passe, c'est la nature se passe comme ça. Donc la vision d'un vautour en train de manger une carcasse, c'est pas forcément quelque chose qui passe bien. Alors qu'un vautour qui plane dans les airs, c'est magnifique. Et c'est vrai que dans ce film, nous, on a pris le parti de montrer vraiment la réalité.
Oui, enfin, moi, du coup, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut dévaloriser un animal à partir du moment où on l'a filmé, qu'on le laisse faire. C'est pas un acteur et on le pousse pas à faire des choses.
Bah en fait, dévaloriser, c'est tout simplement parce que on voit de façon crue les vautours se disputer, rentrer les têtes dans la carcasse, avoir du sang sur les... Et quand on regarde les films animaliers classiques, on voit jamais ça parce qu'on voit le vautour très joli qui plane. Et voilà, dévaloriser, certaines personnes trouvent que ça donne pas une bonne image du vautour, alors que c'est la vraie image, quoi.
Et en Creuse, on trouve quel type de charognard ?
Bah, il va y avoir justement les corvidés, et le grand corbeau, ouais, notamment. Et alors pour ce qui est vautour, de temps en temps, les vautours fauves passent, mais enfin c'est quand même extrêmement rare.
Ils passent en Limousin ?
Ça peut arriver, oui, de Lozère, où ils ont été réintroduits de temps en temps. Enfin, c'est tous les ans, il y a quelques vautours fauves qui viennent, mais bon, ils restent pas. Hein. Donc, voilà.
La pie, elle est aussi charognard ?
Elle peut, elle est omnivore, donc elle peut à l'occasion, mais de la même façon que la buse variable, par exemple. La buse variable en hiver, c'est, à la base, elle n'est pas charognarde, voilà, c'est pas du tout une espèce qui va... Elle va se nourrir de campagnols vivants qu'elle va chasser principalement, mais partant de disette, je crois que la plupart des espèces, même le renard, enfin voilà, c'est des espèces qui, à l'occasion, peuvent aller se nourrir... sur des carcasses.
S'il y a beaucoup de neige, oui, une buse variable, elle ira sur un animal mort. Mais le reste de l'année, elle ne le fera pas, par exemple.
Et donc, pouvez-vous nous expliquer une fois pour toutes la différence entre la corneille et le corbeau ?
Alors, oui. Déjà, entre le grand corbeau et la corneille noire, il y a une différence nette. C'est déjà une différence de taille. Les deux espèces sont entièrement noires, voilà, du bec jusqu'au bout des pattes. Mais le grand corbeau est beaucoup plus grand en envergure Et notamment au niveau de la queue, en fait, le grand corbeau a une queue qui est cunéiforme, ce qu'on appelle cunéiforme, c'est-à-dire qu'elle est assez ronde, en fait, large et ronde au bout, alors que la corneille, c'est, la queue est plus droite. Mais là où la difficulté se pose, c'est avec, entre la corneille noire et le corbeau freux. Le corbeau freux juvénile, c'est pas les adultes qui, eux, ont le bec plus blanc. Donc, on voit très nettement la différence. Mais avec les juvéniles, justement, les juvéniles sont entièrement noirs aussi. Et donc, la différence, elle va beaucoup se noter sur le bec. Les corbeaux freux ont un bec qui est très droit, vraiment, alors que la corneille va avoir un bec plus incurvé. Donc, ce sont des petits détails d'observation. Il faut avoir de bonnes jumelles pour pouvoir les différencier. Et ensuite, c'est aussi une différence d'attitude des oiseaux, c'est-à-dire que les corbeaux freux sont une espèce grégaire qui vit plus en groupe. Et donc, on peut les observer souvent voilà, en groupe dans les champs, alors que les corneilles noires, elles, vont être plus... se déplacer plus en couple ou en petite famille, quoi. Voilà, l'été, tout ça, on peut les observer à 4 ou 5, mais c'est jamais de grands groupes, voilà, contrario du corbeau freux.
Et en Limousin, on trouve quel type de corneille ?
La corneille noire, uniquement. Oui.
Uniquement.
Ouais. Et après, on va trouver le corbeau freux, qui lui, globalement, il y a quelques couples qui nichent, mais presque pas. Globalement, c'est des individus qui vont venir hiverner en Limousin. En groupe, donc.
Et on trouve le grand corbeau, notamment bien oui. Réparti. Voilà, notamment ici, sur le plateau de Millevaches, on peut observer des grands corbeaux.
Et pour une personne lambda, c'est facile de les observer ? Juste une paire de jumelles et de la patience ?
Ah oui, c'est très facile. Ça fait partie, justement, des oiseaux les plus faciles à observer.
Ils sont pas trop effrayés par les humains, du moins qu'on les approche pas trop près.
Non, bah oui, il faut mieux avoir une paire de jumelles, mais il se passe pas une journée si on fait attention où on verra pas une corneille.
Ah oui.
Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin, nous donner une journée type d'observation, pas que de corneilles, d'autres animaux par exemple ?
Ah bah alors ça c'est très variable, ça dépend ce qu'on cherche à faire, si on cherche juste à observer ou si on est en train de filmer par exemple. Là, alors là, c'est très très variable.
Ah ben pour une personne qui se réveille par exemple le matin, ça peut commencer dès le matin. Les petits sons des oiseaux au réveil, si on a une mangeoire ou si on sort sur le palier de sa porte, on peut entendre plein d'oiseaux communs qui nous entourent, les mésanges, la citelle, le rouge-gorge, les pinsons. Là, nous, ce matin, on a entendu le premier coucou de l'année, voilà, le coucou gris qui est revenu d'Afrique. Donc voilà, ça peut commencer dès le matin en ouvrant la porte et en écoutant. Après, bah, c'est très aléatoire. L'observation, de toute façon, de la nature, elle n'est pas, c'est pas automatique. On ne va pas sortir et vouloir voir quelque chose et le voir. Ça, c'est vraiment... Après, il faut ouvrir grand les yeux, je pense, et grand les oreilles aussi. Nous, le coucou, ce matin, on ne l'a pas du tout vu, mais entendu. Et ça aussi, ça a une grande importance pour connaître... les animaux et reconnaître les espèces. Justement, on parlait du grand corbeau, de la corneille. Les cris aussi sont très différents. Donc, on peut reconnaître vraiment des animaux uniquement à leur cri. Et ensuite, je dirais, bah, peut-être pour les mammifères, si on a envie d'observer des mammifères, ça, c'est généralement plus le matin tôt. Nous, par exemple, bah, quand on emmène les enfants à l'école, on peut observer des chevreuils. Après, on peut observer en fin de journée des martres, des renards. Mais ça, c'est vraiment... c'est extrêmement aléatoire.
De toute façon, globalement, c'est toujours mieux le matin et le soir pour observer.
Et donc, quelle doit être la principale qualité d'un observateur animalier ?
Bah, être discret, c'est-à-dire se promener sans faire trop de bruit. Et puis après, être très attentif, parce qu'on peut passer à côté de 1000 choses sans s'en apercevoir. Donc discret, attentif et puis patient, très patient aussi.
Et discret, en tout cas, en ne criant pas trop fort, en étant discret, en murmurant quand on doit se parler, si on est plusieurs, mais aussi discret physiquement, c'est-à-dire si on est habillé en fluo et qu'on se balade dans la forêt, bon, ben, on sera visible pour tout un tas d'espèces et voilà.
Et si vous deviez donner un adjectif à la faune limousine creusoise, ce serait lequel ?
Diverse.
Ouais, diverse.
Et est-ce qu'il y a des espèces menacées en Creuse?
Ah oui, il y en a pas mal qui sont pas forcément menacées que au niveau de la Creuse. Par exemple, le milan royal, c'est une espèce qui, au niveau national, diminue beaucoup, enfin la population. Et après, simplement en espèces communes, hein, il y a pas très longtemps, il y a une étude qui a été faite, je sais pas si les gens l'ont peut-être entendu parler, il y a une très forte diminution des oiseaux communs, notamment de l'alouette des champs, des oiseaux qui sont liés à l'agriculture et donc qui subissent tout l'apport de pesticides, enfin la forme d'agriculture qu'on a actuellement. Alors en Creuse, c'est moins visible que dans la Beauce, par exemple, mais c'est là quand même.
Et beaucoup d'espèces également, pour certains reptiles, pour les insectes. De toute façon, la biodiversité, elle est menacée de tous les côtés par les pratiques de l'homme et par son utilisation des pesticides notamment, sur le défrichement. Le Limousin, la région subit également les conséquences des pratiques humaines, oui.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des espèces menacées ou disparues dans la région qui reviennent ou de nouvelles espèces qui apparaissent?
Oui, alors là, je pense qu'il y a beaucoup de gens s'en sont aperçus. Il y a par exemple la grande aigrette, ce qui est un héron tout blanc en fait. Alors du côté du plateau, il y en a certainement un peu moins, mais du côté nord-creuse, on en voit vraiment de plus en plus. Et ça, c'est national aussi. C'est une espèce qui revient... Qui reprend des niveaux de population plus conséquents. Après, on pourrait même parler de la buse variable, tout simplement, qui a été très menacée, qui a été braconnée. Et depuis que l'espèce est protégée, les populations ont repris un niveau acceptable.
Et justement, vous parliez des hérons. Des hérons blancs, et moi j'ai une question par rapport à ça, puisque je connais pas mal de pêcheurs, et les pêcheurs, eux, ils sont pas contents puisqu'on peut pas attirer les hérons ni les cormorans, et ils ont l'impression que ça dépoissonne leurs étangs, et en plus que ça rapporte des nuisibles, comme par exemple certaines écrevisses ou des poissons-chats. Alors ça, c'est un mythe ou une réalité?
Alors que ça rapporte des écrevisses ou des poissons-chats, alors là, c'est totalement le mythe, parce que je vois pas comment ça se passerait. D'ailleurs, j'avais jamais entendu ça, c'est assez... Et après, alors là, on en revient toujours à la même chose. Un héron, par exemple, il a forcément son utilité puisqu'il est en haut de la chaîne alimentaire, enfin, il est assez haut dans la chaîne alimentaire. Donc, en fait, il va consommer des proies les plus faciles à prendre, donc des proies blessées, les proies qui sont en surnombre. Et par là, il va réguler la population. Et jamais il dépassera le stade de tout décimer, puisque lui mourrait de faim à ce moment-là. C'est vraiment le classique du prédateur. Il ne peut pas se reproduire à l'infini et tout consommer et faire disparaître ses proies, puisque lui mourra à ce moment-là. Donc en fait, il faut plutôt voir ça comme un signe de bonne santé. S'il y a beaucoup de hérons, c'est que le milieu est bon. Si le milieu était très appauvri, il n'y aurait pas de hérons, hein, ça c'est sûr.
Et par rapport donc aux pêcheurs, on en revient également au fait que tout est une histoire de partage des territoires. C'est-à-dire que l'homme, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on a envie d'avoir une nature où il y aurait plus de hérons, plus de buses, plus de renards, plus d'animaux autour de nous? Ou alors choisir uniquement les espèces qui nous intéressent, qui ont un intérêt financier, alimentaire pour nous? Où on choisit de partager nos territoires. Voilà. Et donc, toute la question est là pour de nombreuses... pour la plupart des espèces. Et faut se dire que nous, l'homme, on n'est pas au centre du monde. C'est pas nous qui sommes une espèce au-dessus de toutes les autres, qu'on a tous les droits, que déjà, on en prend. On en prend beaucoup trop. On détruit autour de nous. Et c'est juste savoir dans quelle mesure on est prêt à partager notre espace de vie. Voilà, les autres espèces, on estime, en tout cas dans notre pensée, que chaque espèce a droit à la vie. On est voilà, on est là, chacun à sa place. Effectivement, les chaînes alimentaires existent. Si y a des renards, c'est parce qu'ils sont utiles. Et en plus, ils peuvent servir aussi à l'homme parce qu'ils se nourrissent de campagnols et donc ils peuvent servir à, aux agriculteurs. Enfin, c'est juste savoir que chaque chose est à sa place et que la nature, elle n'a pas attendu l'homme pour se réguler pour, et pour être diverse, quoi. C'est... Voilà, c'est, la, c'est toute la place de l'homme qui est à revoir.
Pour résumer par rapport à la pêche, en prenant un exemple extrême, en fait, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que, et moi, je ne pense pas que les pêcheurs veulent ça. Est-ce qu'ils veulent un étang en forme de baignoire avec, qui déborde de poissons qu'ils ont relâchés ? Ou est-ce qu'ils veulent un étang sauvage avec des hérons qui viendront manger quelques poissons je pense que la majorité des pêcheurs... préfère avoir un milieu naturel viable.
Et donc, on, vous parliez de partage de territoire. Eh ben, y a une question vraiment très d'actualité, c'est le loup, avec, entre le berger et du coup, le loup qui vit sa vie. Qu'est-ce que vous pensez de, son, son, de sa reprise là ? Il commence à recoloniser la France ?
Alors le loup, c'est, bah, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement parce que c'est une espèce qu'on essaye de voir depuis quelques années, notamment en Espagne, puisqu'il y a des grosses, enfin des populations beaucoup plus grandes. Là, on en revient juste, justement. Alors, on n'a pas réussi à le voir, mais on a repéré beaucoup de traces, on a repéré une meute, on a vu des crottes. Et donc, en Limousin, le loup, pour l'instant, officiellement, n'est pas encore ici. Mais, ben, nous, tout ce qu'on attend, c'est qu'il soit là. En fait, il faut en parler, il faut vraiment en discuter parce que sinon il va y avoir un gros problème avec les éleveurs et c'est pas souhaitable du tout. Il y a beaucoup d'éleveurs qui sont de bonne volonté, mais qu'on le veuille ou non, le loup reviendra. Donc il faut s'y préparer, il faut le faire en bonne entente plutôt que être devant le fait accompli et que ça se passe très très mal à ce moment-là. Le loup, c'est vraiment le grand prédateur qui manque en fait. On a besoin de loups pour réguler notamment les chevreuils, pour avoir une nature sauvage, une nature pleine en fait. On a besoin de grands prédateurs.
Ouais, donc c'est, vous dites que c'est inéluctable, le loup va se réinstaller en Limousin.
Oui, oui, ça c'est certain, c'est absolument certain. Alors ce sera peut-être dans très longtemps, hein, mais ça arrivera. Et alors il ne faut pas que les gens croient que le loup va se réinstaller en meute tout de suite. Il va y avoir d'abord des loups a priori solitaires qui vont passer en Limousin, qui vont être détectés. Et après, il peut se passer 10 ans, 15 ans avant qu'une meute réelle s'installe en Limousin, si on la laisse faire, évidemment.
Après, il faut peut-être remettre en place certaines choses, mais il y a beaucoup de croyances du fait, quand vous dites recoloniser la France et tout ça, il y a la notion de réintroduction qui revient souvent dans les esprits. Beaucoup de gens croient qu'en fait, en France, on a réintroduit le loup, alors que c'est une idée absolument fausse. Et je veux dire, c'est officialisé par l'État, on le sait, le loup gris est revenu d'Italie, naturellement. C'est une espèce, en fait, qui avait été éradiquée en France, ce qui n'a pas été le cas dans plusieurs pays d'Europe, notamment l'Italie, l'Espagne. L'espèce a toujours vécu là-bas, alors qu'en France, elle avait été totalement éradiquée, voilà, d'après les données officielles. Donc le loup est revenu naturellement en France il y a quelques années et effectivement c'est faut aussi comprendre le fonctionnement en fait des loups, comment ils fonctionnent. C'est pas des espèces c'est une espèce en fait qui vit qui est très sociale, éminemment sociale comme nous les hommes. Voilà, ils vivent en groupe, donc il y a un couple qui domine donc la meute, qui est le couple qui se reproduit. Et en fait au moment des reproductions, une fois qu'une meute est installée, donc déjà il faut qu'il y ait un contact entre un mâle et une femelle et ensuite qu'il y ait une reproduction. Donc après il se passe des années et au bout d'un moment donc les jeunes vont se répartir, chercher de nouveaux territoires. Et donc c'est comme ça que depuis 20 ans le loup se répartit dans plusieurs régions françaises. Et donc son arrivée en Limousin, oui, en toute logique, il va arriver. Donc voilà ce que disait Vincent, c'est important de prendre conscience, pour les éleveurs notamment, là c'est vraiment se rendre compte qu'un loup qui va passer dans le Limousin, ça veut, voilà, il ne va pas s'installer tout de suite, il ne va pas... causer des dommages tout de suite et savoir aussi que les solutions, elles existent. C'est-à-dire que nous, en France, étant donné que le loup a disparu pendant des décennies, on a oublié qu'on pouvait élever des animaux, avoir des troupeaux qui devaient être surveillés. Voilà, on a pris des habitudes qui sont légitimes, hein, je veux dire, quand... il n'y a plus de super prédateurs sauvages, on peut laisser nos brebis toutes seules dans les alpages ou nos moutons seuls dans nos prairies. Simplement, quand il y a un prédateur en place, ce que n'ont pas oublié d'autres pays européens, il faut protéger. Voilà. Et donc, toute la question aujourd'hui en France, elle est de savoir comment, quelles sont les mesures de protection vis-à-vis des troupeaux pour que le retour du loup se passe le mieux possible. Et donc, il y a des solutions. Il suffit d'aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Il y a des chiens, justement, qui viennent protéger les troupeaux. Il y a plein de méthodes qui sont mises en place. Et donc, elles existent. Les solutions existent. Il ne faut pas partir du principe que le loup, c'est un animal sauvage qui va venir manger nos enfants et manger nos moutons. Voilà, ce temps-là, il est révolu de ses croyances. Voilà.
Quand j'utilisais le terme donc, de coloniser, c'est parce que c'est vraiment, je me suis renseigné, c'est vraiment ce qui se passe. En fait, le loup, comme du coup, voilà, c'est un loup solitaire qui va, c'est la caravelle, elle va sur un nouveau continent, elle l'explore, puis hop, elle revient, et petit à petit, ça s'accoupe des fois, et puis hop, une meute commence à s'installer.
Mmh. Et, tout à fait. Oui. Donc, non, mais c'est le bon terme, hein, ouais. Coloniser, c'est vraiment ça, il se répartit voilà, au fur et à mesure, ça prend des années.
Et maintenant, moi, j'aimerais bien vous parler aussi de l'ours. Parce que là, par contre, l'ours, on essaye de le réintroduire, et bon, ça se passe pas si bien que ça.
Mais à quel niveau ça se passe pas bien? Au niveau
pareil, des éleveurs.
Et, ben, et surtout la chasse, c'est au moins une fois tous les 10 ans, un loup a été tué par un chasseur. Un ours a été tué par un chasseur.
Oui,
ce
oui.
qui est dommage, puisque ça, on fait beaucoup d'efforts pour qu'il se réintroduise et ça se termine mal, quoi.
Et ben en fait, c'est ça, c'est on va dire que c'est un mal français, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Dans les Pyrénées, il y a quasiment plus d'ours. Il y a eu quelques lâchés. Le problème de l'ours, il est très, très politique, parce qu'en fait, si on réintroduit plus d'ours, la population, elle est condamnée, même à moyen terme. Donc en fait, politiquement, si on veut des ours dans les Pyrénées, si on veut une population viable, il faut en relâcher. Alors ça fait des années qu'on attend que la décision soit prise, mais sur le long terme, il ne faut pas en relâcher deux, ça ne suffira pas. Et après, au niveau cohabitation, honnêtement, l'ours dans les Pyrénées, c'est plus que négligeable. Le problème qu'il peut poser, c'est plus psychologique qu'autre chose. Hein. C'est vraiment...
Et on en revient vraiment au problème. Effectivement, c'est un problème politique, mais vraiment sur la place de l'homme. Quelle place on veut accorder aux sauvages? Et vraiment, en France, je pense que... il y a une large place qui est accordée justement au monde de la chasse et de l'élevage, et où les choses, elles veulent pas trop être remises en question, quoi. Voilà, donc les hommes ont décidé que les renards, fallait tous les tuer, que les loups, alors là, si on pouvait tous les éliminer, ce serait encore mieux, les ours aussi, enfin même les vautours fauves, enfin voilà, on pourrait en parler... voilà, ce sont des choix vraiment qui viennent de très haut. Voilà, le monde des chasseurs, c'est un électorat qui est pas négligeable pour certains politiques, et donc faut bien les ménager. Et pour les éleveurs, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup à revoir dans le discours, dans la vision. Voilà, de notre place sur cette terre, qu'elle ne nous appartient pas, et je veux dire, l'ours, nous, pareil, on a pu l'observer en Espagne, Vincent, en Slovénie, enfin, c'est des pays, notamment la Slovénie, qui est infiniment plus petit en superficie que la France, et où la population d'ours, elle est juste, c'est même pas comparable.
C'est toujours intéressant de comparer. La Slovénie, grosso modo, c'est la surface de la Bretagne, et il y a à peu près 600 ours là-bas. Et les problèmes sont quasi inexistants. Donc en fait, en France, je sais pas, par rapport à l'ours, il y a toujours quelque chose. Si on voulait réellement une population d'ours, il y aurait aucun souci à cohabiter avec l'ours, avoir une bonne population. Mais je crois que la volonté est pas là. Et je pense que c'est pourtant très important de conserver l'ours. Au niveau français, c'est quand même une espèce très emblématique qui a toujours été là, qui a toujours vécu avec nous, qui est utile, qui représente beaucoup de choses. Donc, c'est l'exemple qu'on donne toujours. En France, on est toujours bon pour donner des grands conseils aux pays africains, par exemple. On va expliquer comment garder les éléphants. Parce que, du point de vue français, on ne veut pas que les éléphants disparaissent. Et pourtant, en Afrique, ils ont énormément de problèmes, autres que l'éléphant. Et à côté de ça, bah nous, en France, on est incapable de s'occuper d'une petite population d'ours, de la conserver, de la faire grandir, de gérer, entre guillemets, le problème du loup. On est totalement incapable de faire ça.
Et une petite précision, il faut savoir qu'en France, la population d'ours, elle s'élève à environ une trentaine d'ours dans les Pyrénées. Voilà, donc pour comparer avec la Slovénie, ça donne une bonne idée.
Après, les opposants, du coup, aux ours, ils avancent souvent les problèmes, du coup, en Roumanie, où il y a une surpopulation d'ours, et du coup, ils commencent, comme les sangliers ici, en fait, à aller voir sur les terrains habités par l'homme. Et oui, bah, par contre, un ours, ça peut faire des dégâts quand ça croise des fois des humains.
Oui, c'est vrai. Mais alors, avant qu'on soit en surpopulation en France, il va se passer quelques siècles. En fait, en Roumanie, il faut voir, par exemple, en Slovénie, on en revient au même, l'ours est chassé, en fait. Hein. En Espagne, où on revient donc pour le loup est chassé là-bas. Les populations ne sont pas laissées comme ça à l'abandon. Il y a une gestion, mais c'est géré de façon intelligente. Alors en Roumanie, je ne sais pas exactement, je pense qu'il est chassé, enfin c'est même sûr, mais je pense qu'un ours qui pose problème, qui va vraiment s'habituer à venir dans un coin précis, il sera vite tué en fait, et puis le problème sera réglé tout simplement. La population ne sera pas mise en danger.
Donc on arrive au terme de cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qu'on aurait peut-être oublié ou un message à passer ?
On peut peut-être signaler qu'on vient juste de terminer justement notre dernier film animalier qui est sur le lynx ibérique, qui est donc en Andalousie, où on a filmé pendant 3 ans pour avoir des images de ce lynx qui est très très menacé. Il reste à peu près 500 individus dans le monde. Et donc on vient de terminer ce film qui dure une demi-heure.
Il est disponible en DVD, voilà, pour les personnes qui sont intéressées, et peut-être inviter justement les personnes qui ne connaissent pas encore la revue, qui vivent dans la région, à découvrir la revue Lacardère, si la nature les intéresse, de près ou de loin, parce que c'est fabuleux d'être curieux aussi. Donc voilà, leur dire que la revue, elle est proposée en dépôt-vente un petit peu dans les librairies de la Creuse notamment, un petit peu en Corrèze, un petit peu à Imoutier aussi, en Vienne, mais voilà, notamment à Bourganeuf, à la Maison de la Presse, à Feltin, à Aubusson, à la Licorne et Magasin Bio, et voilà. Ou nous contacter directement à l'association, voilà. Je peux donner, je ne sais pas, le numéro de téléphone. Voilà, nous, alors, on est joignable au 05 55 61 08 31, ou vous pouvez nous contacter aussi par mail. Vous tapez Association Carduelis, donc Carduelis, C-A-R-D-U-E-L-I-S, sur un moteur de recherche. C'est souvent le premier site qui apparaît. Et voilà, vous aurez toutes les infos sur nos films, notre revue, et pour nous contacter pour toute autre question.
Et toutes les infos seront aussi sur notre site radiovassivière.com. Merci.
Merci.
Merci à vous.
Et c'était donc Carmen Munoz-Pastor et Vincent Primo de l'association Carduelis qui crée donc la revue Lagardère. Lagardère, donc revue naturaliste du Limousin. Pour les contacter, vous pouvez le faire par voie de courrier à l'adresse Lafresse, F-R-E-2-S-E, 23130 Perra Lanonnière. Ou par téléphone au, prenez vos stylos, 05 55 61 08 31, je répète, 05 55 61 08 31, ou alors par mail à Carduelis, C-A-R-D-U-E-L-I-S, @laposte.net. Pour ce qui est de la revue, vous pouvez la trouver à Perra Lamonnière à l'épicerie Vival, à Minsa à l'épicerie, à Aubusson, à la librairie La Licorne, le magasin Bio Étiquette, la Maison de la Presse et au bouquiniste au Petit Bonheur. À Gouzon, vous pouvez vous trouver aussi à la Maison de la Presse, à Guéret, à la Maison de la Presse, place Bognot, et à la librairie Au Fil des Pages. Ensuite, à Chénérailles, à la Maison de la Presse, à Dun-le-Palestel, à la librairie des Mille Feuilles Dunoises, à la Souterraine, le Panier du Coin, à Chambon-sur-Oise, Maison de la Presse, Office de Tourisme, la Ressourcerie, la Dynamo, à Jarnage, l'Auberge Culturelle d'Alzire, à Auzance, la Maison de la Presse, à Évaux-les-Bains, au Bar Presse, l'Oralie, et à l'Office de Tourisme, à Boussac, il est aussi présent à la Maison de la Presse, à l'Office de Tourisme, à Bourgneuf, dans la Maison de la Presse, à Feltin, à la Ressourcerie, à Lussa, dans le bar-restaurant de Lussa, et le Mât d'en Haut. Et vous pouvez aussi le trouver en Haute-Vienne, à Aimoutier, à la librairie Passe-Temps, et en Corrèze, à Neuvic, à la Maison de la Presse, et Ussel, à la librairie Ventadour. Vous pourrez trouver, comme je l'ai dit dans l'interview, toutes ces données et ces éléments sur notre site radiovassivière.com.